archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC, que vous retrouvez, vous le savez maintenant, chaque jeudi de 18h à 19h sur les ondes de radio Alger Chaîne 3. Je suis Reda Menassel et en compagnie de Lamine Bey, derrière la vitre, et de mes chroniqueurs de talent, nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale, chapeautée par nos chroniqueurs Dalila Harrat et Karim Barek, avec en guise d'inviter Madame Maryam Ben Slama pour nous parler d'Algérie Positive Impact. Elle sera accompagnée de Madame Linda Belaïdi du micro-club de l'université de Bebzouan. Et tout ça, bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous amène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ceci.
زغطيني ري ورد لنا من زغطيني ري ورد لنا من ورد لنا نان ورد لنا شكان ورد لنا نان ورد لنا شكان ورد لنا مقلان زغطيني ري ورد لنا من زغطيني ري ورد لنا من ورد لنا نان ورد اللي نشكان ورد اللي نونان ورد اللي نشكان ورد اللي مقلان هي غنم كرا غير المسنا طال ازدرت افوق ازدغدغتي ليه ازدرت افوق ازدغدغتي ليه عايد مرشد ماوي استغنيتك ما
Avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6 Alger Chaîne 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte.
Et vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Aïchien 3 et de Médiatique, présentés par votre serviteur, Reda Menassel. Je suis accompagné ce soir par mes deux chroniqueurs que le monde, l'univers, le continuum, espace-temps nous envie. En l'occurrence, Dalila Harrat et Karim Barek. Messieurs, dames, bonsoir.
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 On a deux invités EES ce soir, en l'occurrence Madame Linda Belaïdi du micro-club de l'USTHB, qu'on va entendre dans quelques instants. Mais on commence l'émission avec Madame Maryam Ben Slama, qui va nous parler en fait d'un forum économique qui vise à promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises en Algérie et son intégration dans le tissu économique de notre pays. Alors ça s'appelle Algérie Positive Impact. Maryam, bonsoir.
Bonsoir Reda.
Tu peux nous raconter la genèse de ce projet? Ça vient d'où? Ça démarre d'où?
Déjà, merci de m'avoir invité.
Avec plaisir.
Nous sommes, un incubateur. Mm-hmm. qui s'appelle ACSE, The Algerian Corporation for Social Engagement. Voilà. Exactement. Nous avons été créés en 2016 et le but de notre incubateur, notre mission, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat impact en Algérie. Donc on a accompagné des dizaines d'entrepreneurs sur ces 8 ans avec la collaboration de plusieurs partenaires comme l'ambassade des Pays-Bas en Algérie, comme l'Union européenne, mais également des entreprises comme Jay-Z, Unilever, etc. Et puis...
Qu'on peut citer une fois et plus jamais.
Et plus jamais. Très bien, c'est entendu. Et puis, par la suite, au bout de ces 8 ans, on s'est dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'impact social des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise est là pour être rentable économiquement. C'est comme ça, c'est sa raison d'être. Mmh. Mais au-delà de cette rentabilité économique, comment cette entreprise peut prendre en compte les effets qu'elle produit sur la société et sur l'environnement. Et ça, c'est un concept qui s'appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, le projet du forum est né suite à cette réflexion-là, en se disant il y a besoin de que les entreprises s'engagent davantage au profit de la société, qu'elles aient des pratiques responsables, des pratiques éthiques, des pratiques durables. Et c'est comme ça que a émergé donc l'idée de ce forum économique.
Calais.
Bonsoir.
Salut.
Mariam, j'aime bien ce genre d'événement parce que ça me rappelle des souvenirs quand je suis vieux. Donc,
alors, je rappelle que c'est placé sous la tutelle du ministère des Startups et de l'économie de la connaissance. Voilà, c'est important de souligner.
Oui.
Et ma seule problématique, moi aussi, j'essaie depuis plusieurs années de convaincre certaines entreprises. Comment vous allez, vous, Myriam, quelle serait la procédure idéale pour essayer de convaincre le maximum d'entreprises de s'impliquer et d'avoir un impact positif sur la société? C'est-à-dire, c'est beau de dire le mot magique RSE, mais comment on peut les convaincre, mis à part des lois qui vont obliger ou qui obligent...
Au-delà de la coercition.
Voilà, exactement.
Très bien. Alors, quand on parle aux entreprises, il faut parler le langage des chiffres. Il faut parler le langage de la performance et il faut parler le langage de la rentabilité. Et du coup, par conséquent, quand on parle à ces entreprises sur la possibilité, enfin, quand on les sensibilise à la RSE, la première chose que les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés me disent, parlez-moi business. Donc, en fait, il faut pas partir du principe que la RSE, c'est une démarche philanthropique,
caritative,
qui vise à sauver la planète et à sauver, et à faire du bien de manière complètement désintéressée. C'est pas du tout ça. Le chef d'entreprise, ce qui l'intéresse, c'est encore une fois les chiffres et dire
et l'image
que
ça... aussi, hein. Faut pas se mentir.
Bien sûr. Et tout à fait. Et l'image. Et ce qui l'intéresse, lui, c'est comment il peut améliorer, sa performance économique grâce à la RSE. Comment il peut améliorer son image et sa réputation, comment il peut améliorer sa marque employeur parce qu'il a besoin de retenir des talents, d'attirer et de retenir des talents. Donc comment il peut accéder à de nouveaux marchés, notamment à l'international, en étant grâce à la RSE en fait. Donc tout ça, c'est le langage des entreprises.
Il y a ne pas s'adresser au cœur, mais plus au cerveau, à la logique. Quel serait mon intérêt potentiel ?
Tout à fait. C'est une démarche très pragmatique avant d'être philanthropique. Et la philanthropie, ce n'est pas l'objet de la RSE. On a tendance à la confondre en Algérie avec des actions ponctuelles qui sont des actions qui relèvent de la
communication.
Voilà, soit de la communication, soit vraiment du volet caritatif, c'est-à-dire distribuer des cartables ou aller donner, financer des repas pendant le ramadan, etc. C'est très bien, mais c'est pas ce dont il s'agit en matière de RSE. Voilà.
Dalila.
J'aurais peut-être 2 questions à vous poser, Mlim. Première question, j'aime bien un concept que vous avez développé dans vos documents déjà, d'ailleurs qui est un peu proche de ce que nous... de ce qui nous intéresse, nous, de transformation. On parle tout le temps de transformation digitale. Et là, je retrouve un terme qui est très intéressant, qui est transformation positive.
Oui.
Je suis heureux d'apprendre ce
comment est-ce que les RSE accélèrent ou participent dans la transformation positive? Et puis j'aimerais bien que vous expliquiez ce concept de transformation positive des entreprises.
Très bien. Justement, on a voulu, on a appelé notre forum Algeria Positive Impact. La positivité est le maître mot de cet événement. C'est un mot important parce que l'idée, tout simplement, c'est d'être positif, c'est ne pas aborder la RSE comme une contrainte, comme quelque chose de lourd à mettre en œuvre. C'est vraiment partir du principe que la RSE a des bénéfices concrets, encore une fois, sur les entreprises. Et voilà, ça c'est la première chose. Et la seconde chose.
C'est-à-dire, comment est-ce que la RSE va contribuer à cette transformation positive?
Donc, quand on entend positive, on a un peu l'impression d'une espèce d'angélisme quelque part, que tout va bien,
manager,
mettre un peu tous les problèmes qu'on rencontre au quotidien, de les balayer sous le tapis. Je suppose que c'est pas ça le but de cette nomenclature, de ce choix de nom.
Bien sûr, la positivité, c'est pour parler d'impact positif. Mmh. En fait, on parle d'impact souvent, mais un impact, il peut être positif ou négatif. C'est pour préciser qu'on parle d'impact positif sur qui ? Sur les employés. Quand on adopte une démarche RSE, il y a des retombées positives sur les employés, sur les collaborateurs. C'est une transformation positive du business model qui est moins énergivore, qui consomme moins de ressources, qui préserve les ressources.
La durabilité aussi.
Bah, tout à fait ça. La RSE et la durabilité sont intimement liées, bien évidemment.
D'un autre côté aussi, on a un peu les deux paradigmes anglophones et francophones. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'attendais que vous le disiez. C'est-à-dire,
différentes conceptions.
C'est de mettre au cœur de l'entreprise l'éthique. Et l'éthique l'a connectée directement à la gouvernance. C'est très important. Donc, dans les entreprises, parfois, le capitalisme peut être véroce, etc. Et mettre dans le cœur des actions de l'éthique et les connecter à la gouvernance, c'est un peu plus par rapport à ça qu'est né les premiers concepts de RSE, dont aux États-Unis notamment, parce que c'était les premiers, c'était les pionniers qui avaient fait ça. Et donc, c'est vrai que le paradigme, on parle de sociétal, responsabilité sociétale, mais au cœur de tout ça, il y a aussi de l'éthique, beaucoup d'éthique, et placer l'éthique, et dire que l'éthique, ça veut dire que ce soit moins énergivore, c'est éthique, que de préserver l'environnement, c'est éthique, de faire du bien autour de soi. La croissance, au terme capitaliste, c'est vrai qu'il y a de la croissance, mais il y a toujours de la destruction quelque part, donc on essaie un peu de racheter et de se racheter en quelque sorte. Les entreprises essayent de se racheter dans la société et dans l'environnement.
Mais la frontière, c'est comme pour le greenwashing, par exemple. La frontière,
il faut
c'est
éviter,
l'intention.
Justement, il faut éviter le greenwashing par l'éthique, justement. C'est l'éthique qui doit primer plutôt que de faire du greenwashing. Enfin, je pense, c'est comme ça que j'ai toujours penser et analyser la question. Peut-être que je suis dans le tort, mais l'éthique, il faut qu'elle y ait surtout.
L'éthique est vraiment au cœur d'une démarche RSE. L'éthique, c'est en fait, ça va être au cœur même de notre forum. On parlera de gouvernance, on parlera de loyauté des pratiques, on parlera d'anticorruption, on parlera de leadership éthique aussi.
J'aime bien ce concept.
Alors, c'est quoi le leadership éthique ?
Alors, c'est comment le leadership porté par une personne. Enfin, généralement, nous, on parle beaucoup dans notre tissu économique. Il est à majorité constitué d'entreprises familiales. Mmh. Et dans ces entreprises familiales, il y a toujours le leader qui propulse l'entreprise, qui est le fondateur de l'entreprise. Et le leadership éthique, c'est comment prendre en considération tout ce qu'on est en train de dire là, c'est comment prendre en considération les aspects sociaux, les aspects environnementaux, les aspects sociaux et environnementaux dans l'exercice, dans les activités de l'entreprise. Exactement. Donc le leadership éthique va être aussi au cœur de ce forum-là. Il sera abordé par une doctorante spécialisée justement sur la question du leadership éthique qui s'appelle Najwa Tamrat. Mm-hmm. Et voilà, on va parler également de gouvernance parce que éthique et gouvernance c'est intimement lié, bien évidemment.
Ça va aussi parler de, tu as utilisé le mot à l'instant, les fameux ESG. Qu'est-ce que c'est ?
Les ESG, c'est exactement les RSE, mais en anglais, sincèrement, je me souviens de governance. Le G, c'est governance, S.
Ok.
Vous pouvez.
Très bien. Alors, ESG, c'est les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, c'est les critères qu'on prend en compte, en plus de toutes les, on va dire, tout ce qui est rapport financier. Au-delà du rapport financier, on prend en compte ces critères-là, ESG. En fait, les critères ESG sont principalement destinés aux investisseurs qui, lorsqu'ils décident d'investir, faire le choix d'investir dans une entreprise, voient au-delà de la performance financière ces questions environnementales, sociétales et de gouvernance.
Et d'ailleurs, par ailleurs, même les banques maintenant, quand elles offrent des crédits, elles prennent en compte ces critères pour
leur compris en Algérie.
Certaines commencent.
On a Natexis justement qui ont un focus sur les critères ESG qui sera là et qui discutera, qui abordera justement cette thématique.
Donc ça commence petit à petit. Il y aura aussi une exposition Apinov. Qu'est-ce que ça court ?
Alors Apinov, c'est quoi ? C'est un espace d'exposition qui est dédié aux TPE, aux startups et aux projets innovants. L'idée, c'est quoi ? C'est que on veut mettre en valeur. Nous, on est un incubateur. On a fait pendant 8 ans de l'accompagnement et comment rendre visibles des petits projets ou moins petits.
Comment transformer l'idée à entreprise, en fait.
D'idée à entreprise, mais pas n'importe quelle entreprise. Il faut vraiment qu'elle ait un impact social ou environnemental et que sa mission s'inscrive dans un des 17 objectifs de développement durable. Mmh. Ça paraît un peu barbant, 17 ODD. Parfois, on est loin. Parfois, quand je parle ODD, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, pourquoi tu prends les ODD ?» C'est juste pour dire que ça a un impact positif sur la société et l'environnement, voilà, pour faire court, en fait. Donc, d'où notre mission dans l'incubateur, ça a toujours été de booster ces projets-là. Et là, on va leur donner un espace d'exposition où ils peuvent présenter leurs produits, leurs services. Il s'agira aussi bien d'associations. On aura des associations qui prend en charge par exemple des enfants malades. On aura des plateformes consacrées à l'inclusion des personnes en situation de handicap. On aura des projets dans tout ce qui est éco-conception, etc., etc. Donc on a essayé de varier un peu entre projets associatifs, projets start-up et TPE.
Très bien, on fait une petite pause et on revient juste après.
Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer ? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6-Alger-Chin-3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte.
Yeah.
Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6-Alger-Chin-3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte.
Effectivement, Médiatique, c'est avant tout votre émission. Hein. La preuve, nos amis du micro-club de l'USTHB nous ont contactés sur la page Facebook de l'émission. Une semaine plus tard, ils sont là. On continue notre conversation avec notre ami Mariam pour une petite dizaine de minutes et ensuite vers l'USTHB. Karim, tu avais une question.
Ah oui, c'est une question et une remarque aussi. Un commentaire plutôt, parce que je me pose la question, comment on pouvait, c'est-à-dire on peut faire avec les entreprises algériennes, parce que quand on dit entreprise algérienne, mm-hmm. on dit chef d'entreprise algérien, on dit aussi mentalité algérienne. Quand tu vas poser à une majorité de chefs d'entreprise, pas tous heureusement.
Là tu parles de ton vécu, de ton expérience professionnelle.
Tu vas lui poser la question, est-ce que ça va le business? Ça va pas. Tu vois. Donc, comment tu vas te convaincre?
C'est vrai qu'on a un rapport spécial au succès dans le domaine de l'IT en Algérie. L'argent, effectivement.
À l'international, les entreprises montrent ce qu'ils gagnent toute l'année, public, les données sont publiques, pour montrer que cette entreprise est fructueuse. On peut investir avec, on peut acheter des actions, on peut éventuellement. Mais ici, non, ça ne se fait pas. Et je m'inquiète un petit peu par rapport au sujet, c'est-à-dire comment je vais, est-ce qu'il me faut un psychologue pour aller le convaincre d'aller vers les RSE? Je pense que Mélim a une stratégie ou une réflexion sur ça. Alors, désolé d'être...
Non, c'est une question pertinente. Mélim.
J'ai pas de stratégie, j'ai pas une recette miracle toute faite. C'est vrai ce que tu dis, Karim. C'est qu'il y a des spécificités.
C'est la première fois qu'un invité lui dit ça. Il est, ça le rend quelque chose.
Il est flatté. Ouais. C'est vrai ce que tu dis parce que c'est vrai, il y a des spécificités de la RSE en Algérie. La RSE en Algérie, elle est parfois pratiquée. On la pratique sans le savoir. Il y a ce premier cas de figure. Mm-hmm. Deuxième cas de figure. On pratique de la RSE, mais on ne veut pas trop le faire savoir. Parce que...
Ce serait contre-productif quelque part, non?
Alors, contre-productif, c'est très inhérent à notre culture et à même ce qu'on disait tout à l'heure. Ça relève même de notre religion, mm-hmm. de ne pas s'afficher quand on fait du bien ou quand on fait des œuvres. Mais sauf que la RSE, c'est pas faire du bien en fait. Mmh. C'est une démarche beaucoup plus pragmatique que cela et parfois on a tendance à la limiter à aller, comme je vous ai dit, aller faire
le couffin du ramadan.
Le couffin du ramadan, etc. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ces spécificités qui sont inhérentes à notre culture. Après, c'est vrai, Anna, quand je parle avec des chefs d'entreprise, la première chose qu'ils me disent, c'est oui, mais. Le business, même si c'est des business qui roulent, mais on a toujours tendance à montrer un peu ce qui va pas avant de dire ce qui va.
Merci Karim d'avoir déterré ce mot que je n'avais plus entendu depuis primaire, je pense.
La matière première est problématique, l'envolée des prix, l'inflation. Bref, c'est toujours beaucoup.
Alors parfois, ça peut être aussi de vrais problèmes.
Je dis pas qu'ils inventent. C'est tout à fait vrai. C'est juste que et parfois surtout, c'est en mode oui, mais moi, je dois m'occuper de l'opérationnel au jour le jour, qui est très prenant. On est soumis à des changements de réglementation, etc. De manière parfois un peu inopinée.
Donc je n'ai pas forcément le temps ni envie de me plonger dans un
exactement
dans un audit ou voilà.
Dans une logique court terme, mm-hmm. on pense à survivre un peu, à s'en sortir sur le court terme et on pense pas forcément sur le long terme. Et je pense que pour envisager pour adopter la RSE, il faudrait réfléchir plus dans une logique à long terme.
Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être une piste de réflexion, mais bon, elle est beaucoup plus globale, c'est d'aller vers de la labellisation, c'est-à-dire aller vers quelque chose qui soit quelque chose qui soit comme un graal et dire voilà, je donne un label si vous faites ceci, 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 cela.
Ce label va permettre
voilà, d'accès à des marchés, voilà, ou là, des marchés locaux, ou alors avoir des points bonus pour des crédits, etc. Est-ce que c'est pas intéressant d'aller faire une démarche pareille? Et puis, ça serait qui va faire cette.
Mais ça existe. Ça déjà, existe. Dans le sens où, déjà, il faut savoir que la RSE, quand on parle de RSE, le référentiel par excellence, c'est la norme ISO 26000, voilà, qui trace les lignes directrices de la responsabilité sociétale des entreprises.
Mais une certification, c'est toujours très lourd.
Alors, il faut savoir que la ISO 26000 n'est pas certifiable.
Ah, super.
Donc, c'est plutôt une démarche, des lignes directrices qui peuvent s'adapter d'entreprise en entreprise selon le secteur d'activité taha, selon la taille taha, etc.
D'accord.
Donc, il y a des lignes directrices qui existent, bien évidemment. Il y a d'autres référentiels, le GRI, Global Reporting. Pardon.
Le cheval.
Excusez-moi.
C'est ça le direct. Hein,
ouais, désolé, les aléas. Il y a des référentiels et des normes qui existent en la matière. Maintenant, encore une fois, la question, en fait, c'est de dire quels sont les bénéfices concrets pour moi. Les bénéfices concrets pour moi, c'est là, par exemple, il y a un dispositif qui va avoir lieu qui va être mis en place à partir de 2026 aux frontières de l'Europe. Et ça va concerner les entreprises exportatrices, les entreprises algériennes exportatrices qui vont devoir s'acquitter d'une taxe sur les questions de carbone. La taxe d'ajustement au carbone, frontière au carbone, c'est le dispositif CBAM. Et ça, par exemple, c'est très concret. Ça arrive demain, 2026, c'est demain. Je parlais il y a quelques jours avec un membre de l'Algex qui disait que, en fait, cette taxe-là, elle va. Il faut vraiment qu'on l'anticipe et qu'on la prépare parce que 80% des exportations algériennes sont faites à partir de dérivés du pétrole, en fait. Voilà, plastique et autres. Donc, tout ça pour dire que, en fait, ça c'est concret, ça va arriver, c'est en 2026.
Et notre pays, évidemment, a un coup à jouer.
Bien sûr, et ça va porter préjudice si on n'anticipe pas assez et on ne met pas en conformité les entreprises algériennes. Ça, par exemple, c'est concret. Après, justement, pendant le forum, on va parler de. On va parler d'image, de réputation. Qu'est-ce que la RSE apporte à l'image, à la réputation? Est-ce que la RSE va aider à recruter des profils intéressants, des talents? Est-ce qu'elle va les retenir, etc.? Comment on va faire pour les retenir grâce à la RSE?
On avait reçu quelqu'un qui était à la tête d'un site d'embauche, l'un des plus importants du pays, et il nous disait qu'effectivement, certains étudiants, notamment dans les domaines techniques, devenaient de plus en plus exigeants par rapport aux entreprises qu'ils démarchent.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que si vous n'avez pas une politique d'RSE, si l'écologie, c'est le cadet de vos soucis, par exemple, ben, l'ingénieur actuel algérien ne va pas démarcher votre entreprise, tout simplement. Il y a une espèce de changement de mindset mais très, très localisé. Hein. C'est vraiment les étudiants techniques.
Et c'est très localisé, je dirais même, c'est propre à cette génération Z, la Gen Z là, dont on parle. Mmh. Elle a des codes quand même très différents. Elle accorde de l'importance au sens, en fait. Il faut
tout
qu'elle ait du sens. C'est plus 8 heures de travail et on rentre chez soi. Mmh. Il faut d'autres motivations, en fait.
On va en parler justement avec Linda. Hein, qui...
voilà. Comment on fait pour assister? J'ai envie de venir.
Alors, c'est le 28 janvier, donc 2025, c'est au Palais de la Culture que ça se passe. Mélim va nous donner les détails.
Alors,
c'est ouvert au public, il faut s'inscrire, comment ça fonctionne?
C'est sur inscription obligatoire et c'est bien évidemment gratuit. L'accès est gratuit. Pour s'inscrire, il faudrait aller sur le site internet donc www.algeriapositiveimpact.com et puis vous vous inscrivez en ligne, vous recevez votre badge et on vous reçoit le jour J.
Quand on vous reçoit, on ne doit pas jurer qu'on va respecter la RSE.
Non, justement, en fait, on ne doit pas jurer et on est tenu de rien. Moi, j'invite les sceptiques, ceux qui n'y croient pas ou ceux qui pensent qu'il y a anguille sous roche ou que c'est encore un énième une énième comment dire
trend à la mode, voilà.
Exactement. J'invite les sceptiques, j'invite ceux qui que la curiosité dans la curiosité enfin
que la curiosité titille, voilà.
Exactement. Qui savent que la RSE, qui en ont entendu parler, que ça peut avoir des retombées positives, mais qui ne savent pas exactement concrètement comment, je les invite à venir.
Merci beaucoup Mariam. Merci. Tu restes avec nous, on revient tout de suite.
Time to the good old days. play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream about a space, but now they're laughing at your face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6-Alger-3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte.
(18h44) sur les ondes de Radio Alishan 3. Madame Elim Ben Salama reste avec nous. On s'intéresse tout de suite à Madame Linda Belaïdi. Elle est étudiante à Babzouar et membre de l'éminent micro-club de l'USTHB. Marhaba, welcome.
Bonsoir. Oui, super, et vous?
Nickel. On a dit qu'on se tutoyait dans cette émission. Allez, Karim Barek, pourquoi tu t'es intéressé au hackathon qu'ils vont organiser dans quelques jours?
Ça, je dirais une blague.
Non, tu as bien fait de t'abstenir.
Voilà. Bon, c'est Micro Club, un club qui est connu. Aussi, il y a beaucoup d'autres clubs qui font des choses, mais Micro Club a pris la peine de remplir la demande sur la page.
Et nous demandé, écrire, tout
voilà,
simplement.
Nous écrire. Il faut juste écrire.
D'ailleurs, dans quelques mois, sans faire de spoil, mais on est en train de penser au retour d'un bel événement qu'on avait fait il y a quelques années ensemble, hein, voilà, qui était le grand oral des clubs étudiants. On est en train de travailler à essayer.
Mais on ne vous a rien dit.
Voilà, on ne vous a rien dit. Voilà, cette partie de l'émission est passée sous le tapis.
Et Micro Club organise en février un grand événement qui va servir, c'est-à-dire comme un, comment dirais-je, va régler beaucoup de problèmes d'entreprise, tout en étant fait et organisé et actionné par des étudiants. Linda, tahaddati.
Oui, alors l'événement Tana Ousmo Tatouer, il se fera du 6 février au 9 février à l'université de Babzouar. L'événement Tana Raihikoun en l'espace de 4 jours. Donc on a les 3 jours qui seront dédiés pour un hackathon sur le domaine de la logistique. Et un quatrième jour qui sera pour les conférences, les panels, une séance de
coaching, c'est ambitieux, hein,
etc. Oui. Alors, le hackathon, il sera sur le domaine de la logistique.
Pourquoi spécialement le choix de cette thématique?
Alors, en fait, on est partenaire avec FlightMe.
D'accord.
Qui est une société sur la logistique. Donc, normalement, c'est eux qui vont proposer la problématique.
Donc, en fait, c'est une entreprise qui rencontre des problèmes dans sa pratique quotidienne et qui va vous les soumettre. Étudiants, trouvez-moi des solutions.
Voilà, ils vont proposer une problématique et les participants auront 72 heures pour trouver une solution et créer une solution. Et ensuite, la solution qui sera la plus créative, la plus réalisable surtout, aura le prix, le meilleur prix.
D'accord.
Donc, elle va gagner. Et bien sûr.
Et au-delà du prix, est-ce qu'elle sera vendue? Est-ce qu'elle sera achetée justement par l'entreprise partenaire?
Normalement, c'est FlightMe qui.
C'est notre qu'on partenaire. Qu'on ne citera plus jamais, voilà.
C'est notre partenaire qui prendra l'idée. Enfin, pas que prendre l'idée, elle va aussi prendre les personnes qui ont trouvé cette idée afin de la développer et de continuer à développer l'idée de l'équipe gagnante.
Très bien. Karim, tu as organisé toi-même pas mal de hackathons en ton temps. Hein. Tu es l'éminence grise de ce genre de compétition en Algérie. Et on en parle souvent tous les deux et même dans l'émission. On parle souvent des fameux concouristes, c'est-à-dire c'est des participants qui proposent une solution innovante, mais uniquement pour remporter le concours. Après, la start-up n'est jamais créée. L'entreprise, très souvent, hélas, il faut le dire, ne tient pas ses promesses, etc., etc. Comment changer, justement, ces mauvaises habitudes? Je ne parle pas de cet événement, bien évidemment, mais de manière générale.
De manière générale, déjà, il faut que ça rentre dans le RSE de Myriam.
Voilà.
Voilà, toutes ces actions doivent être Je ne sais pas qu'il faut les ajouter ou les... Je ne sais pas si ça existe. Le fait d'impacter des étudiants et aussi des entreprises à travers des étudiants qui vont trouver des solutions par rapport à des problématiques. La deuxième des choses, je pense que quand on parle de cadeaux, etc., il faudrait que ça soit après. Il ne faudrait pas que ça soit pendant, mais ce n'est pas évident d'imposer ça à des étudiants qui participent à un hackathon et de leur dire vous allez avoir votre cadeau, mais une fois que l'entreprise sera créée. On a essayé de le faire, mais ce n'est pas évident. Mais je pense qu'au niveau de Microclub, vous avez trouvé une solution, comment sélectionner les bonnes personnes par rapport aux gens qui sont connus dans les hackathons, qui participent toujours avec le même projet. Mais c'est aussi à cause des organisateurs dont je fais pas aussi partie. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est général. Tu vois, les concours sont général, ils ne sont pas ciblés. Là, elle parle de logistique. Comment vous allez faire pour éviter les fans des concours ? Pour trouver les bonnes personnes.
Alors déjà, pour s'inscrire à cette compétition, les étudiants de l'Algérie... l'ensemble du pays va rentrer sur notre Instagram. Il va trouver un lien qui va l'emmener à un formulaire. Donc il va remplir le formulaire et il devra avoir certaines compétences, business intelligence, machine learning. Il devra être designer, peut-être même développeur. Et ensuite, on va...
Ah, quand même,
il doit être...
C'est-à-dire que ce n'est pas ouvert, j'allais dire, à n'importe qui.
Non,
il faut un prérequis.
Oui, voilà. Il faut un prérequis et il faut aussi être motivé. Parce qu'en fait, si on va lire maintenant le formulaire et qu'on voit que tu as juste envie de participer juste comme ça, mais tu n'es pas vraiment motivé, tu as moins de chances que
ce soit...
C'est
pour ça que le formulaire fait 300 pages.
Mais tu remarques aussi, Reda, ici, qu'il n'y a pas une fonction... Et c'est à cause de la forme du concours, c'est qu'il n'y a pas de porteur de projet. D'habitude, les autres hackathons, il y a obligatoirement un porteur d'idées qui va proposer.
Mais là, comme la
thématique, vous avez déjà déclaré.
Non, en fait, c'est le but du hackathon, c'est que la problématique.
Maintenant, ils doivent tous le savoir, connaître le sujet, non?
Non, ils savent que c'est
logistique. Oui,
mais c'est vaste. Hein.
Ils savent que c'est
sur. Parler pendant des heures. Voilà.
Ils savent que c'est sur la logistique, mais en fait, le but d'un hackathon, c'est vraiment de trouver une solution et de la créer en un laps de temps très restreint. Donc la problématique, on ne va pas la leur donner avant, parce que sinon, si on la donne avant, ils auront le temps de créer, de trouver, de chercher. Et le but du hackathon, ce n'est pas vraiment ça. Du coup, c'est une fois que le hackathon commencera, la personne qui va, la personne ou l'entreprise qui va proposer sa problématique, la donnera le jour J.
Ça veut dire que les équipes seront formées à partir des gens qui vont postuler, c'est ça ?
Ils se connaissent déjà ou c'est un tirage au sort ?
Non, en fait, ils peuvent créer une équipe où ils se connaissent déjà, etc. Mais pas forcément. Ça veut dire que on peut avoir une équipe de 5 qui ne se connaissent pas du tout.
D'accord.
Formés
sur place. Ouais. Mais sinon, on peut venir avec ses amis.
Oui, bien sûr.
Vous tablez sur combien de participants ?
Alors, nous...
Il y a toujours du monde dans les événements du Microclub. Il y a une affluence.
Alors,
j'en témoigne.
Pour le hackathon, on aura au maximum 17 équipes de 5. Donc, ça va faire 85 participants.
Quand même, qui vont dormir sur place, manger sur place.
Oui, manger sur place, dormir sur place.
C'est ça, le...
CHB, il y aura des séances de coaching et il y aura des activités aussi. Parce que rester éveillé 72 heures à regarder ton écran, c'est très fatigant. Donc, il y aura des activités pour maintenir la bonne ambiance. Parce qu'après tout, on est encore jeune, on est encore étudiant.
C'est sympa pour nous.
Merci beaucoup.
Voilà. La petite balle perdue. Ouais.
En plus, on est tous concernés. Une question simple, c'est-à-dire, avec ce qui se passe maintenant avec l'intelligence artificielle, etc., est-ce que vous allez couper Internet par rapport aux concurrents?
Parce c'est une très très bonne question.
Oui, mais je sais.
Non.
Merci. C'est la deuxième fois dans l'émission.
Là, tu m'épates,
c'est-à-dire,
j'avoue.
Parce que si vous ouvrez Internet, la connexion, tout le monde aura la connexion, tout le monde pourra créer, faire, imaginer.
Bonjour, cher GPT, peux-tu m'imaginer?
Pas uniquement, voilà, il y a des psychs, il y a des... Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez penser à ça ou pas encore?
En fait, non, l'Internet, elle ne sera pas coupée.
Mais
il n'y a pas de mais. En fait, déjà, même nous, quand on cherchait un endroit, on avait besoin d'un endroit qui avait de l'Internet.
D'accord.
Parce qu'ils vont chercher des... des solutions, ils peuvent chercher des solutions sur Internet, mais en fait, ils n'auront
pas. Mais est-ce que ça n'enlève pas un peu du sel du hackathon,
Linda, hein? Anna, ce que c'est-à-dire ce que j'aime dans les hackathons, c'est quand quelqu'un reste, découvre la problématique, prendre du temps, réfléchir en équipe, surtout le travail d'équipe.
Oui, ben c'est ça,
réflexion
le...
en équipe. Oui. Quelle serait éventuellement la solution à ça, ou une partie de la solution. C'est-à-dire les jeunes peuvent proposer des solutions, mais c'est juste la première partie où le professionnel après va leur dire que cette partie résout.
C'est
le
ça
début
le rôle du mentor.
Cette... Exactement. Oui. Et il y a pas mieux que le cerveau, parce que tout le monde va gagner. Imagine 2, 3, 4 équipes. Où 10 équipes vont avoir le même résultat. Exactement. Et quand tu cherches dans ChatGPT ou un autre.
Il n'y a pas de 10 000 prompts.
Il y a des choses,
D'ailleurs,
l'appel génératif, c'est-à-dire, il y a des choses qui vont ressortir tout le temps. Il y a des bases. Et ça dépend le prompt.
Ça va donner une uniformisation des idées, c'est un peu dommage. Voilà.
Bah, je vous conseille, si vous permettez bien sûr, de couper Internet. Au moins la période de réflexion. Couper Internet, après libérer.
Oui, okay.
Ou de les priver de leur téléphone et
voilà, ces idées.
Elle bac.
voilà. Je sais pas si c'est possible ou c'est pas possible.
Moi, j'avais jamais abordé la question de ce côté-là. Effectivement, dans les hackathons, maintenant, ça devient
compliqué.
Les brainstorming vont devenir.
Il y a pas de brainstorming direct. Ce que je fais, telle solution, ouais. Et ça empêche les gens de réfléchir. Et le but d'un hackathon, c'est de les aider à réfléchir ensemble. Donc, tout le monde est concerné. Il faut qu'il soit étudiant ou non étudiant.
C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde.
Toutes
les wilayas.
Donc, on rappelle, si vous voulez vous inscrire à ce hackathon, vous allez sur la page Facebook du Microclub.
Instagram. Sur la page d'Instagram.
Voilà, Instagram.
C'est les vieux qui vont sur Facebook.
Et les conférences, elles sont ouvertes au public.
Mais pas les 3 jours de...
Non, pas les 3 jours du hackathon. Mais juste les cérémonies, les panels et tout, elles sont...
Très bien. Et pour les candidats, c'est de n'importe quelle université ou école du pays, à condition qu'il y ait un background technique.
Oui, voilà.
Très bien.
Est-ce que vous allez répéter cette action à d'autres thématiques, si vous trouvez d'autres partenaires?
Ils l'ont déjà fait l'année dernière.
En dehors de la logistique.
Oui, bien sûr. C'est pas notre premier hackathon qu'on organise. On a déjà organisé l'année passée Microhack 2.0 et celle d'avant Microhack. On a aussi MGV.
Cette forme de hackathon, c'est-à-dire que l'entreprise vient et explique ses problématiques.
Bien sûr. Chaque hackathon, il a son sujet.
Et ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, dames, de nous avoir honorés de votre présence. N'oublie pas, toi qui m'écoutes, et que je tutoie si tu vagabondes sur les ondes. Ramène du monde et à la semaine prochaine pour un invité exceptionnel. Je vous en dis pas plus.
Doesn't زاد عمري ما نزيد نتلفت لورايا الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه امضت حواله كلها حتى للنهاية ما بقي في البال غير راحة بعد الوليه كل شي ما كان بقات قصات وغير حكاية اطفت شموعه تحليل النسيان عليه الماضي راني غلقت باب وقضيت عليه الماضي راني غلقت باب
وغير حكاية اطفت شموعه تحليل النسيان عليه